Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 13. Le défi socialiste. Première partie. La guerre et le chauvinisme pouvaient différer la colère de classe inspirée par les dures réalités de la vie quotidienne, mais ne pouvaient pas le faire disparaître complètement. À l'orée du XXe siècle, cette colère éclata de nouveau. Emma Goldman, militante, anarchiste et féministe, dont la conscience politique avait été forgée, entre autres, par le travail en usine, les exécutions du Haymarket, les grèves de Homestead, le long emprisonnement de son amant et camarade, Alexander Berkman, la crise des années 1890, les luttes et les grèves de New York, enfin sa propre incarcération sur l'île de Blackwell. Emma Goldman s'adressa à la foule au cours d'un rassemblement organisé quelques années après la guerre hispano-américaine. Comme nos cœurs se soulevaient d'indignation devant ces cruels Espagnols. Mais lorsque la fumée fut dissipée, que les morts eurent été enterrés et qu'il revint au peuple de supporter le coût de cette guerre par la hausse des prix des produits de première nécessité et des loyers, c'est-à-dire quand nous sommes sortis de notre ivresse patriotique, il nous est soudainement apparu que la cause de la guerre hispano-américaine était le prix du sucre et que les vies, le sang, et l'argent du peuple américain avait servi à protéger les intérêts des capitalistes américains. Certains écrivains de ce début du XXe siècle prônaient le socialisme ou critiquaient sévèrement le système capitaliste. Il ne s'agissait pas d'obscurs pamphlétaires, mais de quelques-unes des plus fameuses figures de la littérature américaine, dont les livres étaient appréciés par des millions de lecteurs. Upton Sinclair, Jack London, Theodore Dreiser, Frank Norris. C'était également une période au cours de laquelle un écrivain comme Henry James, exilé volontaire en Europe et peu enclin aux déclarations politiques, pouvait, au cours d'une tournée de conférences organisée aux États-Unis en 1904, qualifier ce pays de gigantesque paradis de la rapine, envahi par toutes les variétés de plantes vénéneuses qu'engendre la passion de l'argent. Les Muckrakers, ou Fouille-merde, surnom donné par Theodore Roosevelt à ceux, écrivains, journalistes, ecclésiastiques ou autres, qui travaillaient à révéler les scandales et les abus de la société américaine. Les Muckrakers, qui remuaient la boue et dénonçait les scandales, contribuait également à cette atmosphère critique en racontant simplement ce qu'il voyait. Ironiquement, c'est par pure recherche de profit que certains magazines de la nouvelle presse à grand tirage publiaient leurs articles, en témoignant par exemple les révélations d'Ida Tarbell sur la Standard Oil Company ou celle de Lincoln Stephens sur la corruption dans les plus grandes villes américaines. Vers 1900, ni le patriotisme guerrier, ni l'absorption des énergies dans le système électoral ne pouvaient dissimuler les dysfonctionnements du système. Le processus de concentration des entreprises s'était poursuivi et le contrôle exercé par les banquiers devenait de plus en plus évident. À mesure que la technologie progressait et que les entreprises devenaient plus importantes, elles exigeaient de plus en plus de ces capitaux que seuls les banquiers détenaient. Dès 1904, plus d'un millier de lignes de chemin de fer avaient été regroupées en six grands réseaux, tous liés à la sphère Rockefeller ou Morgan. Selon Cochrane et Miller, le véritable empereur de la nouvelle oligarchie était la firme J.P. Morgan, efficacement soutenue dans cette entreprise par la First National Bank of New York, dirigée par George E. Baker, et par la National City Bank of New York, présidée par James Tillman, représentant les intérêts de Rockefeller, à eux seuls. Ces trois hommes et leurs associés financiers occupaient 341 postes de direction dans 112 grandes entreprises. En 1912, l'ensemble des revenus de ces entreprises s'élevait à plus de 22 milliards de dollars, somme supérieure à la valeur totale estimée des propriétés dans les 22 États et territoires situés à l'ouest du Mississippi. Morgan avait toujours recherché la stabilité, la régularité et la prévisibilité. En 1901, l'un de ses associés déclarait « Avec un homme tel que M. Morgan à la tête d'une grande industrie et s'opposant aux vieux antagonismes d'intérêts qui s'y donnent cours, la production deviendrait plus régulière, la main-d'œuvre serait plus stable et mieux payée, et les mouvements de panique causés par la surproduction seraient de l'histoire ancienne. » Pourtant, même Morgan et ses associés ne contrôlaient pas complètement un tel système. En 1907, se produisit un mouvement de panique, suivi d'un effondrement boursier et d'une crise économique. Si les très grandes entreprises ne furent pas alors directement touchées, leurs profits ultérieurs ne furent pas aussi importants que le souhaitaient les capitalistes. Parallèlement, l'industrie ne se développant pas aussi rapidement qu'ils le souhaitaient, les industriels cherchèrent des moyens de réduire les coûts de production. Le taylorisme en fut un. Frederick W. Taylor était ingénieur dans une entreprise sidérurgique pour laquelle il avait analysé en détail le moindre poste de travail et élaboré, afin d'augmenter la production et les profits, un système très précis fondé sur la division du travail, l'accroissement de la mécanisation et le salaire au rendement. En 1911, il publia un livre sur l'organisation scientifique qui influença fortement le monde de l'entreprise. Désormais, l'organisation était en mesure de contrôler le moindre aspect de l'activité et du temps de l'ouvrier dans l'usine. Selon Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital, le taylorisme visait à rendre les travailleurs interchangeables, capables d'effectuer les tâches simplifiées que la nouvelle division du travail exigeait, tels des éléments standardisés, dépourvus d'individualité et d'humanité, achetés et vendus comme de quelconque marchandise. Ce système convenait parfaitement à la toute jeune industrie automobile. Ford avait vendu 10 607 automobiles en 1909. Il en vendit 168 000 en 1913 et 248 000 en 1914. 45% de la production nationale. Bénéfice, 30 millions de dollars, avec une main-d'œuvre composée en grande majorité d'immigrés. En 1907, 11 694 des 14 359 ouvriers des usines Carnegie étaient originaires d'Europe de l'Est. Avec ses emplois simplifiés et non qualifiés, le taylorisme fut plus facile à mettre en œuvre. À New York, les immigrants récents travaillaient dans des ateliers clandestins. La ville se transforma en champ de bataille. Le 10 août 1905, la Tribune de New York racontait comment une grève à la boulangerie Federman dans le Lower East Side de New York avait tourné à la bagarre quand Federman avait fait appel à des briseurs de grève pour maintenir la production. Il y avait à cette époque quelques 500 ateliers de confection à New York. Plus tard, témoignant des conditions de travail, une femme se rappelait les escaliers dangereusement branlants, peu de fenêtres et si sales, les planchers lessivés une fois par an et presque pas d'autre lumière que celle des brûleurs à gaz allumés jour et nuit. Les toilettes crasseuses et malodorantes dans le couloir sombre, pas d'eau potable, des souris et des cafards. Durant les mois d'hiver, on souffrait terriblement du froid. Et l'été, c'était la chaleur. C'était dans ces trous malsains que nous, les plus jeunes, au même titre que les adultes, hommes et femmes, trémions de 70 à 80 heures par semaine. Samedi et dimanche compris. Le samedi après-midi, ils accrochaient un écriteau qui disait « Si vous ne venez pas dimanche, pas la peine de venir lundi ». À l'hiver 1909, les ouvrières de la Triangle South Waste Company s'organisèrent et décrétèrent la grève. Malgré le froid, elles formèrent rapidement un piquet de grève. Elles réalisèrent bientôt qu'elles ne pourraient pas gagner si les autres ateliers continuaient à travailler. Un grand rassemblement fut donc organisé pour demander le soutien des autres travailleurs de la confection. Pauline Newman, l'une des grévistes, se remémorait des années plus tard le début de la grève générale. Des milliers et des milliers de gens quittaient les usines de partout et convergeaient vers Union Square. C'était en novembre, le froid de l'hiver n'était pas loin. Nous n'avions pas de manteau de fourrure pour nous tenir chaud, mais nous avions cette énergie qui nous faisait marcher jusqu'à ce que nous trouvions un lieu. Je pouvais voir les jeunes gens, pour la plupart c'était des femmes, descendant les rues sans se soucier de ce qui arriverait. La faim, le froid, la solitude, elles s'en moquaient pas mal ce jour-là, car c'était leur jour. Le syndicat prévoyait que 3000 personnes se joindraient à la grève. Elles furent plus de 20 000 à cesser le travail. Chaque jour, un millier de nouveaux membres rejoignaient l'International Ladies Workers Union, qui jusque-là ne réunissait que quelques femmes. Les femmes de couleur furent très actives pendant cette grève, qui se poursuivit tout l'hiver, malgré la répression policière, les jaunes, les arrestations et les emprisonnements. Dans plus de 300 ateliers, les grévistes obtinrent ce qu'elles voulaient. Les femmes occupaient désormais des postes de responsabilité dans les syndicats. Les conditions de travail dans les usines ne changèrent pas beaucoup. Dans l'après-midi du 25 mars 1911, un incendie éclata à la Triangle South Waste Company, dévastant les 8e, 9e et 10e étages de l'usine, hors d'atteinte des échelles d'incendie. Le chef des pompiers de New York avait déjà prévenu que les échelles ne pouvaient pas monter au-delà de 7 étages. Pourtant, la moitié des 500 000 travailleurs new-yorkais passaient leur journée, 12 heures en moyenne, au-dessus du 7e étage. En outre, la législation stipulait que les portes des usines devaient s'ouvrir vers l'extérieur. À la Triangle South Waste Company, elles s'ouvraient vers l'intérieur et qu'elles ne devaient pas être fermées pendant les heures de travail. À la Triangle South Waste Company, elles étaient, en général, fermées pour faciliter la surveillance des employés. Ainsi prises au piège, les jeunes filles furent brûlées vives à leur poste de travail, s'écrasèrent contre la porte de secours fermée, ou bien se jetèrent désespérément dans les cages d'ascenseur. Quand tout cessa, 146 salariés de la Triangle Company, des femmes pour la plupart, avaient trouvé la mort dans l'incendie ou en se jetant par les fenêtres. Quelques 100 000 personnes suivirent les cortèges funèbres le long de Broadway. Il y eut bien d'autres incendies, bien d'autres victimes d'accidents ou de maladies du travail. En 1904, 27 000 travailleurs trouvèrent la mort sur leur lieu de travail, dans les secteurs industriels, du transport et de l'agriculture. Une année, il y eut 50 000 accidents du travail dans les seules usines de New York. Les manufacturiers de chapeaux souffraient de maladies respiratoires. Les ouvriers carriers inhalaient des émanations chimiques mortelles. Les lithographes s'empoisonnaient à l'arsenic. Selon un rapport de la Commission sur les relations sociales, les accidents du travail avaient fait, en 1914, 35 000 morts et 700 000 blessés. La même année, le revenu global de 44 familles gagnant 1 million de dollars ou plus égalait celui de 100 000 familles ne gagnant que 500 dollars par an. Le rapport présente un échange de propos entre le commissaire Harris Weinstock de la Commission sur les relations sociales et John Osgood, directeur d'une compagnie d'extraction de charbon du Colorado contrôlée par les Rockefeller. Si un travailleur perd la vie, les personnes qui étaient à sa charge reçoivent-elles une quelconque compensation? Pas nécessairement. Certaines fois oui, d'autres non. S'il reste infirme à vie, perçoit-il un quelconque dédommagement? Non, monsieur, il n'y en a pas. Donc, tout le fardeau retombe sur leurs épaules. En effet, monsieur. L'entreprise ne fait rien. Non, l'entreprise ne fait rien. Le syndicalisme progressait. Peu après le début du siècle, les syndicats comptaient environ 2 millions de membres, un travailleur sur 14, dont 80% pour l'American Federation of Labor, AFL. L'AFL était un syndicat relativement fermé, presque uniquement composé d'hommes, blancs et ouvriers qualifiés. Bien que le nombre des femmes au travail continuât de croître, il était passé de 4 millions en 1890 à 8 millions en 1910, représentant un cinquième de la main-d'œuvre totale. Seule une femme sur 100 était syndiquée. Le taylorisme visait à rendre les travailleurs interchangeables, capables d'effectuer les tâches simplifiées que la nouvelle division du travail exigeait, tels des éléments standardisés, dépourvus d'individualité et d'humanité, achetés et vendus comme de quelconques marchandises. Ce système convenait parfaitement à la toute jeune industrie automobile. Ford avait vendu 10 607 automobiles en 1909. Il en vendit 168 000 en 1913 et 248 000 en 1914. 45% de la production nationale. Bénéfice, 30 millions de dollars. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.